Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Louis Albrand. Bonjour Louis.
Bonjour à toutes et à tous. Des destins alpins. Les Hautes-Alpes, j'aime ce pays. La nature l'a fait beau, l'histoire l'a fait grand, donc il y a eu des grands hommes. Nous allons parler des grandes femmes et des grands hommes qui ont marqué ce territoire. Hélas, le triomphe du temps et la désillusion s'étalent partout. Tout disparaît, rien ne persiste. L'impermanence est la règle. Notre propre destin personnel, d'ailleurs, la maladie, la mort, nous rappelle cette loi d'airain. Mais devant le trou béant de ce futur, il faut savoir se rappeler du passé. J'ai passé ma vie à réfléchir sur ce terrain, sur cette terre dans laquelle je suis né, dans une ferme, donc près de la terre, je suis un terrien. Et j'ai rencontré, déjà dans mon enfance, des hommes exceptionnels. Je pense au général Guillaume Aguillès, qui me remettait chaque année les prix d'excellence, qui a été un très grand militaire lors de la dernière Grande Guerre. Je pense au grand politicien Tron, de Châteauroux et d'Embrun, Ludovic Tron, qui me remettait lui aussi les prix au lycée d'Embrun. Donc j'ai rencontré déjà des grands hommes et j'ai voulu, à travers l'histoire, retrouver les hommes du passé. Tous ont été de grands travailleurs. Ils ont fait leur, le vers d'Hugo, « Dieu vois-tu finître du travail que l'insensé repousse, le travail a deux filles, la vertu qui rend la gaieté douce et la gaieté qui rend charmante la vertu. » Fac espera, travaille et espère. Que reste-t-il d'un être quand après la moisson on a séparé la paille et le grain? Petit à petit, le temps fait son travail. Mais au alpin devinrent un idéal et glaneur curieux, je m'accrochais à rechercher des détails de leur vie. Partons de Briançon, où nous rencontrons des peintres célèbres sur lesquels nous reviendrons. Nous rencontrons aussi à Briançon, près de Briançon, le grand mathématicien, le grand, grand mathématicien, ami de François Ier, je veux parler de Finet, qui le premier a écrit et a imprimé la carte du monde. Je veux parler aussi de ses habitants de la Valouise. Descendons la Durance, allons vers la Valouise. Nous rencontrons Pierre de Bruy, que j'ai découvert dans les travaux que je fis pour retrouver mes hérétiques ancêtres les Vaudois. Lui, c'était un grand, grand, grand hérétique qui avait créé son courant, Pierre de Bruy. Un jour, il alla trop loin, il détruisit une église et il fut brûlé. Donc dans cette terre de frontières, qu'est les Hautes-Alpes, ces marches où tant passèrent, dans chaque village, que dis-je, dans chaque hameau, au cours de l'histoire, a surgi un original, un créateur, un acharné qui marqua son temps. Rejoignant la Durance, arrivons à la ville romaine de Rama, où le dernier seigneur du Moyen-Âge, Fasi de Rame, aux puissantes alliances, protégea au XVe siècle les Vaudois de Pallon, Champcelat, Fressinière, L'Argentière. Puis arrivant à Saint-Grépin, où pour des raisons que nous tenterons d'éclaircir plus tard, au XVIIe siècle s'enfuit un paysan du Villard, du hameau des Chapins, vigneron, parti vers la Lorraine, car il s'est fait attraper en trafiquant la gabelle, le sel. Plus tard, il va habiter près de Varsovie, et là naît Frédéric Chopin, le grand génie mondialement connu de la musique. Et puis, plus loin, à l'abbaye des Calmes, à Aiglier, naquit Guillaume, le petit berger, qui s'éleva à la sainteté par ses prières et ses prémonitions. En effet, il avait prévu la crue du Guil qui emporta son monastère. Un peu plus haut, sur les hauteurs de Rizoul, à Barbin, naquit au XIe siècle celui qui devint grand maître de l'ordre des hospitaliers de Jérusalem. On pourrait le comparer aujourd'hui, par exemple, au patron de l'ONU. C'était un homme très puissant. Il quitta un jour de printemps, seul à cheval, sa modeste tour de Rizoul pour partir aux croisades lointaines et s'imposa dans l'Orient compliqué. Suivez-moi dans le Queyras, où vécurent les ancêtres d'Auguste Thiers. Auguste Thiers, qui fut un très grand homme politique et qui eut un rôle crucial et terrible lors de la révolte à Paris de la Commune. Mais aussi d'Edmond de Charleroux, qui était écrivain et qui épousa Gaston Defre, du professeur Rodier, éminent cardiologue à Marseille. Voyez, chaque village, chaque hameau a ses grands hommes. Par le col de Fromage, du Queyras, rejoignant Seillac, où le fils de Guérin, colporteur du XVIIe siècle, fit fortune, devint prince-archevêque d'Embrun et faillit devenir pape. Sa sœur, d'abord nonne, s'échappa du couvent, créa un grand salon littéraire à Paris, eut un fils naturel, celui-ci est le grand d'Alembert, qui est un des principaux encyclopédistes. Et puis, n'oublions pas Guillestre, où naquirent de grands soldats, le baron Albert, général à la Bérézina, un peu plus loin à Champcelat, le général Gueux, tous deux se manifestèrent dans les guerres napoléoniennes et ont leur nom célèbre gravé sur l'Arc de Triomphe, à côté de Bonaparte et de Murat. Puis allons à Embrun, mais avant, arrêtons-nous sur la droite à Châteauroux, les ruines du château de Rudolphe, seigneur du Saint-Empire, ont défié le temps. Enfin, le roc d'Embrun, où s'illustrèrent mains archevêques, je pense à Jacques Gélu, qui donna son nom au square devant la cathédrale, qui, sans l'ingratitude du roi Charles VII, eut sauvé Jeanne d'Arc à son procès de Rouen. Plus tard, il écrit au roi « Sire, ce n'est pas bien ce que vous avez fait, vous avez laissé tomber, vous n'avez pas payé la rançon aux Anglais, vous avez laissé abandonner cette pauvre bergère qui vous a tant aidé pour retrouver votre trône. » Et puis, après Gélu, on trouve à Embrun un autre archevêque d'Embrun, Jules II de Médicis, qui lui devint pape. Et il est agréable de penser que c'est du roc qu'il commanda au plus grand sculpteur de son temps les magnifiques statues que l'on observe encore à Rome. Mais le roc, c'est aussi le poète Clovis Hugues, sans oublier un grand homme que j'ai bien connu, Victor Delfoli, philosophe barbu, qui jusqu'au bout défia le général de Gaulle. En effet, il avait promis de ne se couper aucun poil tant que de Gaulle serait au pouvoir. Plus bas encore, suivons la Durance, arrivant à la puissante famille d'Avançon, qui donna au roi de France un garde des Sceaux et des ministres de finances. Puis, dans le petit village de Saint-Étienne d'Avançon, naquit au XVIIe siècle, Benoît de Rancurel, la mystique du Lot, qui aujourd'hui encore attire des foules françaises et italiennes. Ainsi, le petit glaneur que j'étais enfant est aujourd'hui comblé, et cela me rappelle quand je meurtrissais mes jambes avec les chaumes sauts du mois d'août que je ramenais à mon père quelques épis oubliés. Ainsi, le cours de la Durance dont parle Pline l'Ancien, ce cours de l'histoire, je l'ai travaillé village par village. À Gap, on rencontre Farel, qui avec John Knox et Calvin jeta les bases du protestantisme, son neveu François de Beaune, fils d'un petit notaire de Saint-Bonnet, parti pour Paris où il étudia au collège de Navarre. Par les hasards de la vie, il étudia avec le jeune Henri IV, qui devint son ami, et devenu roi, l'aida beaucoup. Devenu duc de Lesdiguières, il fut de longues années le maître incontesté du Dauphiné, et eut pu céder aux sirènes du pouvoir suprême, car le duc de Bretagne l'incita à un moment de prendre le pouvoir à Paris, à l'époque de la Régence, quand Richelieu n'était pas encore assez puissant pour imposer le jeune roi. Mais Lesdiguières était un alpin, un sage. Il préféra trouver une seconde épouse dans un commerce de Grenoble, se marier, et il eut une fin de vie relativement heureuse après avoir construit son monumental château près de Grenoble à Vizille. Et surtout, il gagna du pays de Bayard. Lors de la grande bataille, il gagna son titre et sa gloire sur les ducs de Savoie. Voilà, dans Lubaye, nous trouverons le visionnaire André Honorat, qui bâtit la cité universitaire internationale de Paris et mit en place l'heure d'été déjà en 1917. Donc peu de gens savent que c'est un habitant, un député de Lubaye, qui a mis en place l'heure d'été. Ce ministre plein d'idées fit l'admiration de l'infatigable président du conseil Paul Reynaud de Barcelonnette, qui disait « Cet homme est exceptionnel, il a 3 idées par jour ». Ne nous attendrons pas sur Paul Reynaud, que tout le monde a connu. C'est lui qui mit le pied à l'étrier au général de Gaulle. Sans Paul Reynaud, De Gaulle n'aurait pas existé. C'est lui qui le fait entrer au gouvernement. C'est lui qui lui donne ses étoiles. Donc, grand Reynaud, Reynaud, un grand homme dans l'histoire. Une pensée va aussi au père colporteur Don Cotolengo, un curé ubaïen qui fonda à Turin une société d'entraide caritative qui s'est imposée en Italie et dans le monde entier. Et enfin, n'oublions pas l'attachant Abbé Pierre, lui aussi originaire de cette vallée et qui eut une telle action généreuse et fraternelle dans les années 50 pour vaincre la pauvreté. Donc, saint, aventurier, guerrier, homme de lettres, bâtisseur, homme de foi, artiste, meneur d'hommes, mendiant, sublime. Je ne suis pas un historien, mais ces personnages, je les décris tels que je les ai connus ou ressentis. J'ai vécu avec eux. Et arrivé à une expérience de ma vie, je sais que la vie se compose d'autant de morts que de vivants.
Merci beaucoup.